J'aimerais partager avec vous une petite méditation que j'ai reçue quand j'ai pris un petit temps de désert à Bouvines. J'ai entendu hier que d'autres allaient aussi aller à Bouvines et je me réjouis de prendre des temps de désert. Voilà, c'est super. Et vraiment, Dieu m'a beaucoup, beaucoup édifié. Il m'a envoyé à Bouvines en me demandant de lire ce qui était sur mon calendrier Pensées précieuses, le livre de Ruth et le psaume 107. Je dis, Seigneur, le livre Ruth, c'est 4 chapitres, le psaume 107, c'est 60 versets. Bon, c'est peu de choses, mais le Seigneur m'a dit de le relire plusieurs fois. Bon, déjà, ça prend du temps. Et après, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois lire après? Et le Seigneur m'a dit, le cantique des cantiques. Bon. Alors, c'est le fruit, ce que je vous partage maintenant. Bon, un ou deux peut-être ont déjà un peu entendu, puisque je l'ai partagé aussi à une maison de prière, à la maison de prière. Mais c'était vraiment la directive du Seigneur. Hein. Ce n'est pas moi qui ai décidé, bon, Seigneur, je vais lire ce livre. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, Jean-Luc, lis cela et médite cela. Mais juste avant de prendre le Cantique des Cantiques, j'aimerais qu'on lise ensemble Osée 2, versets 16 à 18. Osée, le prophète Osée, donc c'est le premier, je crois, ou le deuxième, ouais. Non, c'est le premier, il me semble, des petits prophètes. Osée 2, versets 16 à 18, un verset qu'on connaît bien, qu'on a certainement entendu plusieurs fois ces derniers jours. Ces dernières semaines, ces derniers mois, je crois, c'est souvent revenu. On l'a entendu pour ceux qui ont écouté un vendredi soir lors du dernier jeûne et prière, le dernier avant celui d'avant-hier. Hein. On avait écouté un enseignement de Jean-Marc Taubois sur le désert. Il était venu parler de cela ici dans cette salle. Osée 2, versets 16 à 18. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cette parole ? Il veut nous conduire au désert. On l'a entendu, ça. C'est ce qu'on a entendu, hein, lors du dernier jeûne et prière. Hein. Il veut nous prendre à part pour qu'on s'échappe des pressions quotidiennes qui nous envahissent, qui nous absorbent, qui quelquefois nous accaparent. Et quelquefois, il faut vraiment partir de chez soi, parce qu'on reste chez soi. Moi, de temps en temps, je remarque, je prends une heure chez moi, puis, ah, tiens, une toile d'araignée là, bon, faut que je l'enlève. Tiens, ah, et le carreau est un peu sale, faut que j'enlève. Tout ça pendant la prière. Quand on n'est pas chez soi, au moins, on est dégagé de tout ça. Hein. C'est pourquoi c'est bon d'aller vraiment quelquefois à l'extérieur. Dieu veut nous prendre à part pour qu'on s'échappe des pressions quotidiennes et pour qu'il puisse parler à notre cœur et nous amener dans une nouvelle révélation de son amour. Tu ne m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. D'accord ? Est-ce qu'on est sensible, chers amis, en ce moment à cet appel d'aller au désert pour que le Seigneur parle à notre cœur? Ça nous a été rappelé dimanche dernier avec Étienne Vanout. Hein? Quel est l'enjeu? Si nous négligeons cet appel, il est probable que le jour du Seigneur nous surprenne comme un voleur. Ça l'enjeu, hein? Que le jour du retour du Seigneur nous surprenne, si nous prêtons attention au contraire. Nous serons prêts et nous serons dans l'attente et dans l'espérance de son retour et de l'union définitive avec lui. Nous avons à être, et c'était la conclusion du message dimanche dernier, souvenez-vous, Nous avons à être comme ces cinq vierges sages qui avaient conservé de l'huile. Nous avons à demander cette huile sainte qui est, ça nous a été dit clairement aussi, le feu du premier amour. Voici ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur à une église, c'est que tu as abandonné ton premier amour. D'accord ? Alors peut-être vous vous trouvez en ce moment, certains, dans un mauvais état spirituel, vous vivez des temps, c'est possible, on traverse ces moments-là tous, on est déçu, peut-être de soi-même, peut-être des autres, dans une période qui nous semble stérile, alors vous êtes plus que concerné par cet appel, parce que c'est dans ce contexte que le peuple de Dieu se trouvait quand il l'a parlé à travers le prophète Osée. Alors vous êtes plus que concerné, vous n'êtes pas écarté de cet appel. Le prophète a dit au peuple de Dieu, la vallée d'Achor, la vallée de l'humiliation, là où le peuple a été humilié avec Achan, là, hein, deviendra une porte d'espérance. Ça nous a été rappelé par Jean-Luc, je pense, il n'y a pas longtemps. Hein. Il y en est de même pour nous. Mais bien sûr, point n'est besoin d'être dans cet état, mauvais état spirituel, pour répondre aussi à cet appel. Entendons l'apôtre Paul qui nous dit, dans 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Waouh, c'est fort ça, hein ? C'est fort, hein ? Le jour du Seigneur, c'est l'époux qui vient chercher une vierge pure, qui vient chercher son épouse, sans tache ni ride. Il ne va pas venir chercher quelqu'un qui est endormi à cette attente, pris complètement, absorbé complètement par les choses de la vie. Alors, on l'a lu hier, Cantique des Cantiques, chapitre 5, avant que j'introduise ce livre, au verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ah, j'aime bien ça. Parce qu'on a besoin de dormir comme tout le monde, hein, heureusement. Être prêt pour le retour, ça ne veut pas dire rester éveillé 24 heures sur 24. On a besoin de dormir. Mais mon cœur veille. Récemment, le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, je voudrais que le matin, je sois le premier à qui tu t'adresses. Je voudrais que le soir, je sois le dernier à qui tu m'adresses. Oui. La parole. Et je voudrais que tu t'adresses à moi plusieurs fois dans la journée. Alors ça change un peu certaines habitudes. Quand je me lève, hop, petit déjeuner rapidement, la radio. Non, la radio après. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter tout ça, mais qu'est-ce qui est la priorité, hein ? Oui. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Je voudrais faire une introduction à ce livre avant de vous parler des découvertes que j'ai faites dans ce livre. Quelques découvertes, attention, je ne veux pas être très très long. Il n'est pas étonnant que le Seigneur nous conduise à lire ce livre. Je voudrais vraiment vous y encourager à le méditer. Quelqu'un a dit à propos de ce livre, le Cantique des Cantiques, nous voyons le visage de notre Sauveur dans presque tous les livres de la Bible, mais dans celui-là, il nous révèle son cœur et nous plonge dans son amour. Hudson Taylor, qui est un missionnaire très connu, qui a été en mission en Chine, a dit ceci, « Ce livre mérite en vérité son titre de Cantique des Cantiques. Aucun autre ne l'égale. Lu de la bonne manière, il apporte au cœur une joie qui passe celle que le monde donne, comme le ciel est au-dessus de la terre. C'est un cantique que seule la grâce peut nous enseigner et l'expérience nous apprendre. Je me souviens, après avoir reçu ces petites découvertes là que j'ai faites après ce temps de désert, que le lundi matin suivant, je repassais tout ça. J'avais une joie. Une joie de, oui, de réaliser ce qui était le bien-aimé pour moi. Ça, je l'ai vécu. Mais j'ai envie, franchement, j'ai envie de reméditer, d'aller beaucoup plus profond. Donc c'était très clair pour moi, hein, de lire, de méditer ce livre. Donc je vais vous partager quelques découvertes. Chaque fois qu'il est question de la bien-aimée, c'est de son Église qu'il s'agit. C'est de nous qu'il s'agit. Pensez-y, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Chaque fois que je vais parler de l'amour du bien-aimé pour la bien-aimée, c'est pour nous. D'accord ? Alors, voici quelques perles. Au premier chapitre, verset 3. La senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. Le nom de Jésus est un parfum qui se répand. La semaine dernière, en priant, un midi avec d'autres, quelqu'un avait eu cette pensée que Jésus a été brisé pour que le parfum se répande, son parfum, la bonne odeur du Christ. Alors quand vous vous sentez lourd le matin, incapable de vous lancer dans une prière, vous vous sentez lourd, ben dites simplement Jésus, 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 je t'aime. Et je crois que simplement de dire ces mots-là, Dieu peut répandre son parfum. Vous allez sentir son parfum, sa grâce. Prononcez le nom de Jésus avec amour et attendez-vous à recevoir son parfum. Et juste après, au verset 4 du premier chapitre, il est dit « Le roi m'a introduite dans ses appartements. Nous serons dans l'allégresse et la joie. Nous célébrerons ta tendresse plus que le vin. C'est à bon droit que l'on t'aime. » Le bien-aimé veut nous introduire dans ses appartements privés, dans son intimité. Et là, et c'est ce qui est contenu dans son parfum, il y a sa tendresse, il y a sa tendresse. Je me souviens des moments de louange, d'adoration dans les 10 jours, où il y avait des paroles qui étaient dites, qui s'adressaient à nous et qui disaient de la part du Seigneur, tu me manques, et qui parlent de la tendresse de Dieu, qui aime nous observer, qui aime nous regarder. On va le revoir après. Oui, nous célébrerons ta tendresse plus que le vin. Dans son intimité, seul, dans ses appartements, je peux découvrir sa tendresse. Alors, est-ce que je veux rester seulement dans la salle du royaume, pour reprendre une expression, ou est-ce que je veux pénétrer dans ses appartements privés, dans l'intimité? Il y a Jésus veut se révéler à nous. Il y a quelque chose de Jésus, ça a été redit encore dans une réunion ici de préparation pour les 10 jours, que Jésus dans son intimité veut se révéler à nous comme jamais on l'a découvert. Jamais. Au chapitre 4, il est dit, c'est le bien-aimé qui s'adresse à la bien-aimée, « Que tu es belle, ma compagne. » Que tu es belle, tu es toute belle, en toi point de défaut. Waouh ! Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a aucun défaut ? Franchement, non. Est-ce qu'on peut dire que l'Église est sans défaut? Non. Alors, le bien-aimé aime profondément sa bien-aimée, il aime tout en elle, il ne lui trouve aucun défaut. Comment Jésus peut-il trouver son Église sans défaut? Parce qu'il ne la voit pas comme elle l'est, il la voit comme elle sera. Il la voit comme elle sera quand la vie aura achevé, la vie de Dieu, son esprit aura achevé son œuvre. Alors je vous dis de la part du Seigneur que tu es belle, mon Église, que tu es belle. Et au verset 9 du même chapitre, « Tu me ravis le cœur, dit le bien-aimé, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. » Waouh ! Un regard qui ravit le cœur de Dieu. Pensez au regard de la pauvre pécheresse qui est entrée chez Simon le pharisien, qui a répandu, qui a brisé ce vase, qui a répandu ce parfum sur les pieds de Jésus en mouillant ses cheveux avec ses larmes. Ce regard a ravi le cœur de Jésus parce qu'il était un regard repentant, de remords, plein de remords et de douleur. Quel repentir il exprime. Pensez au regard du brigand à qui Jésus a dit « Tu seras avec moi dans le paradis ». Voyez, c'est ce regard qui ravit le cœur de Dieu, d'un cœur brisé, repentant. Ce regard ravit le cœur de Dieu beaucoup plus que le regard des anges. Ça, c'est le mystère de Dieu. Que le regard de ses chérubins, que le regard de toute la cohorte qui est autour de lui dans les cieux. Non, c'est le regard du pécheur brisé. Ça, c'est incroyable. C'est le mystère, ça. On comprend pas. Hein. C'est le regard du publicain qui, dans le temple, était à genoux et se frappait la poitrine et disait « Sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur. » C'est ce regard-là qui ravit le cœur du bien-aimé. Au chapitre 5, verset 2, on a commencé à lire tout à l'heure, « J'étais endormi, mon cœur veillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue. Sur la poignée du verrou, j'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en est allé. Il a disparu. » Tiens, ça vous arrive pas, ça, de temps en temps? Le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Il vous réveille. Allez, lève-toi. Alors moi, j'ai expérimenté ça. Je me suis levé. Puis je m'attendais à vivre un temps formidable avec le Seigneur. Puis j'étais dans la galère, j'avais l'impression qu'il était parti. Ouais. Voilà, ça c'est le bien-aimé, il se cache un peu. Mais quelqu'un a comparé, vous savez, le papa avec son enfant qui joue à cache-cache. Et c'est pas pour longtemps qu'il reste caché. Et très vite, il a envie de se remontrer à son fils. Et je crois que le Seigneur se cache pour un temps, mais parce qu'il veut que notre recherche de lui soit vraiment profonde, soit pas superficielle. Vous savez, donner tout comme ça à un enfant, micro-ondes, tout, il va devenir un enfant gâté, un enfant qui ne va pas vous aimer. Et le Seigneur veut vraiment cette relation profonde avec nous. Il veut qu'on le cherche. C'est pour ça qu'il y a tant de plaisir et tant de joie quand on fait un jeûne et prière ici. On l'a encore constaté vendredi dernier, c'était vraiment super. Quand on le vient pour lui, on le cherche pour lui. il est touché. Il aime ça. Il aime qu'on le cherche, et on le cherche vraiment avec profondeur. Donc le bien-aimé frappe à la porte de notre cœur et il se cache un peu, mais vite il ressort de sa cachette pour vraiment parce qu'il nous aime. Et la bien-aimée a vite retrouvé son bien-aimé quand même. Il frappe à la porte du cœur de sa bien-aimée, puis il se cache, oui. Et il lui dit, par exemple au chapitre 2, verset 10, « Lève-toi, ma belle, viens, voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, les fleurs paraissent dans le pays. » Le bien-aimé encourage sa bien-aimée. Il ranime son espérance. Il ranime son espérance. Remarquez, lisez les 8 chapitres, vous verrez toutes les paroles qu'il adresse à sa bien-aimée d'encouragement pour ranimer son espérance. Formidable. Chapitre 2, verset 4, « Il m'a introduite dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi. » C'est l'amour. On vient d'en entendre parler. Il déploie donc sur sa bien-aimée la bannière de l'amour. Cet amour qui est plus fort que la mort, que les grandes eaux ne peuvent éteindre, que les fleuves ne peuvent submerger. Voyez ça dans le chapitre 8, versets 6 et 7. Quelle est notre bannière? Quelle est notre bannière? C'est l'amour du Seigneur. Il faut que ça soit cette bannière-là. Hein. Voilà tout ce que j'ai découvert. J'ai laissé passer 2 ou 3 choses, mais le Seigneur, je dis rapidement maintenant quelques caractéristiques de la bien-aimée, non plus le bien-aimé, mais la bien-aimée. Et on voit dans ce livre qu'elle cherche sans cesse celui que son cœur aime. Au chapitre 1, verset 7. Au chapitre 3, verset 4, il est dit qu'elle est déterminée à ne pas le lâcher. Waouh! Elle interpelle un moment les gardes qui sont avec. Elle prend des coups, je ne sais pas, quelquefois, bon, dans notre zèle pour chercher le Seigneur, on peut prendre des coups. Hein, par Satan qui n'aime pas, parce que Satan, alors là, il a peur de ceux qui... Il a peur vraiment de ceux qui ont saisi ce message, qui ont saisi cet appel, parce qu'il sait, c'est ça qui va le faire fuir. C'est pour ça qu'il cherche à tuer l'amour en nous. Il cherche à tuer l'amour, hein, à refroidir notre amour. Donc cette bien-aimée, elle interpelle les gardes, elle reçoit 2 coups, puis elle réussit à en entraîner d'autres, à aller, qui ont dû se dire, mais bon sang, sa détermination doit... Ça nous dit que c'est certainement quelqu'un d'important, celui qu'elle cherche. Elle n'a pas honte de proclamer sa beauté. Regardez bien, dans le chapitre 1, il est dit « Je suis bronzé » et pour l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, être bronzé c'est bien, mais à l'époque ça c'était pas bien. Et puis avoir le teint noir, c'était certainement un signe d'infériorité. Mais elle dit, mais je suis charmante. Elle dit, mais je suis belle. D'autres traductions disent. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non, je crois pas. Non, 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 non. C'est pas de l'orgueil. Non, je suis charmante. Elle sait qu'elle est belle parce que son fiancé la voit belle. La voit charmante parce qu'elle se sait aimée. Chers amis, réalisons que l'Église est belle. Waouh. Ne la méprisons pas. Ne la critiquons pas. J'ai souvent repris, dès que j'amorce une petite négativité, tout de suite le Saint-Esprit me reprend. Il y a des moments où je suis lassé quand des gens me parlent sans cesse en critique de l'Église. De l'Église avec un grand E, hein, j'entends. Hein. De leur Église. Il y a quelque chose qui sonne pas juste. Chers amis, réalisons que l'Église est belle. Et elle est belle quand elle aime. Elle est moins belle quand son amour se refroidit. Oui, l'Église est belle quand elle aime. Quand elle aime son bien-aimé, quand elle le cherche avec ardeur. Quand elle aime son corps, bien sûr. Et tous ces détails sur le corps, hein, c'est vrai que ils ont leur réalité aussi. Hein. Quand on est amoureux, ben, on aime toutes les parties du corps hein, de notre amoureuse ou amoureux. Mais quelque part, ça nous parle d'aimer le corps du Christ aussi, toutes ses parties. Toutes ses parties. Même les membres les plus anonymes. L'Église est belle. Et l'Église n'a pas à avoir honte de proclamer sa beauté. Et quelles sont pratiquement les dernières paroles du bien-aimé dans ce livre? J'en fais ma conclusion. Jacques, tu peux. Jacques, il est où? Je sais pas, il est... Oui. Il pourra se préparer pour le chant, un chant qu'on va prendre dans la prière. Au verset 5 du chapitre 8, il est dit: qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Tiens, de nouveau le désert. Tiens, la bien-aimée qui revient du désert. Ça nous rappelle d'aller au désert pour retrouver son cœur, hein, et retrouver cette nouvelle relation avec notre bien-aimé. Et le bien-aimé nous envoie un message à sa bien-aimée. Il dit ceci: mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton bras. C'est quoi un sceau? C'est un cachet, on peut dire. Hein, un cachet, quand vous faites un courrier pour une entreprise, clac, vous mettez le cachet, ça veut dire cette lettre, elle vient de telle entreprise elle, ou de telle association. Quand je mets le cachet source de vie, ça vient. Et le Seigneur nous dit: mets-moi comme un sceau sur ton cœur. J'ai pas saisi tout ce que ça veut dire, honnêtement. Je vous le dis en tout, j'ai pas tout saisi. Ce que je crois comprendre, c'est que si le sceau, c'est le cachet, pour dire j'appartiens à cette entreprise, le Seigneur, il veut nous dire quelque chose comme ça: mon enfant, tu m'appartiens. Tu es mon jardin privé, avec des fruits merveilleux. Tu es mon jardin. Ne laisse pas piétiner ton jardin par n'importe qui. Ton cœur. Ton cœur, c'est ma propriété. Et pour que ton cœur dégage la bonne odeur du Christ, mets-moi ton sceau sur ton cœur. Réalise que tu es ma propriété. Pour ton bonheur. Il ne nous force pas en disant ça. Je dirais, il nous dit: est-ce que tu veux bien être ma propriété? Je vous laisse méditer cette parole. Mets ton sceau sur mon cœur. Sur ton cœur, pardon. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Accepte de devenir ma propriété, mon jardin privé. Est-ce que nous voulons répondre à cet appel? Jacques, tu peux commencer à te préparer pour le chant, peut-être, si tu veux bien. Je veux chanter un chant d'amour. On va le prendre d'ici quelques minutes, mais on va prier avant. Hein? Ouais, super. J'aimerais rappeler quand même cette image que dans la soirée de vendredi, on était à deux pratiquement en même temps à le recevoir. Moi, je l'avais à l'esprit, et puis Jean-Luc l'a reçu. Après, il l'a partagé. Et c'était un songe reçu par quelqu'un qui a fait le tour de la France, ce songe. Et plusieurs le connaissent. Et c'était reçu au début des années 2000, quand il y a eu ce temps, ces moments d'intercession pour notre pays, pour la France. Et quelqu'un avait eu ce songe d'un cœur tout au fond, un cœur bleu, froid, environné de glace. Et puis il y avait les larmes de Dieu qui commençaient à couler, qui ont commencé à faire fondre la glace, et pour toucher le cœur. Et le cœur de la France qui a commencé à devenir rouge, et à battre, à se réchauffer avec la glace qui commençait à fondre sous l'effet des larmes de Dieu, du Seigneur, du bien-aimé. Et ce matin, dans l'adoration, je sentais cette interpellation du Seigneur qui nous disait « Ma bien-aimée, est-ce que mes larmes peuvent couler à travers toi ?» Est-ce que mes larmes peuvent couler à travers ton cœur ? Est-ce que les larmes de ma douleur, de ce cœur encore un peu froid dans cette nation, est-ce que mes larmes peuvent couler à travers toi ? Est-ce que tu veux bien recevoir mes larmes ? C'était ça l'interpellation. Est-ce que tu veux bien recevoir mes larmes ? Est-ce que tu veux bien entendre mon cœur battre ? Est-ce que tu veux bien entendre ma douleur ? On a chanté ce matin la bienveillance de Dieu, l'amour de Dieu, mais cet amour laisse encore froid, beaucoup, même parmi mes enfants. Alors, est-ce que tu veux bien ? Est-ce que tu veux bien me mettre comme sceau sur ton cœur et être, comme on l'a dit, ce cœur veillant. Telle manière que, endormi, je vais entendre celui qui frappe et je vais lui ouvrir la porte. Est-ce que tu veux bien ? Et comme réponse, comme début de réponse, on se sait faible, hein, bien sûr. Eh bien, on peut lui entonner ce chant d'amour. Hein. Je veux chanter un chant d'amour à mon bien-aimé. Voilà, je vous demande bien sûr de partir avec cette parole, mets-moi comme sceau sur ton cœur, voilà, de réfléchir, de méditer à ça tout au long de cette semaine, de relire pour vous-même, si vous voulez, le cantique des cantiques. Voilà, que ce chant soit un début de réponse.